Frères et sœurs, c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouve après la coupure de l'été, et c'est avec grand plaisir que je vous rappelle que la grâce, la paix, nous sont données de la part de Dieu notre Père. Je vous invite à vous lever pour tout de suite bénir Dieu avec le chant indiqué dans le livret liturgique qui figure au début de votre psautier, « Bénissons Dieu, le seul Seigneur ». Éternel, notre Dieu, lorsque nous sommes rassemblés à ton appel et conviés à écouter ta parole, c'est vers toi que nous sommes tendus, c'est à toi que nous faisons appel. Notre vie est trop petite pour t'accueillir, notre cœur trop irrésolu pour te servir, notre intelligence trop courte pour mesurer l'intégralité de ton amour. Notre volonté est trop faible pour aller jusqu'à ton royaume, mais tu as choisi de faire ta demeure en nous et parmi nous. Tu as envoyé ton Fils planter sa tente sur la terre ingrate de notre vie. Autrement dit, tu as aimé ce monde, tu nous as aimés. Alors nous t'en prions, rends-nous habitable pour ta présence, accueillant pour ton esprit, attentif à ta parole et à l'évangile de Jésus, notre Maître. Amen. Frères et sœurs, dans notre psautier, je vous invite à vous rendre au psaume 116, dans son harmonisation genevoise, donc le 116b. Nous chanterons les strophes 4, 6 et 7 du psaume 116b. Prenons place. Pour entendre ce que le prophète Jérémie peut nous dire sur cette insatisfaction permanente des chrétiens. Pourquoi les chrétiens sont-ils des insatisfaits permanents? Peut-être parce qu'ils pourraient se dire qu'en étant dans un temple, a fortiori le temple de l'oratoire du Louvre, ils ont fait l'essentiel du chemin. Et voici ce que dit le prophète Jérémie. « Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vraiment vous réformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns et aux autres, si vous n'opprimez pas les migrants, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu un sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. » Nous nous recueillons dans la prière. Éternel, pardonne-nous de nous croire arrivés. Pardonne-nous nos silences quand il fallait encore parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il s'agissait d'agir. Pardonne-nous d'avoir confondu parfois l'Évangile avec notre propre sagesse. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent. Pardonne-nous notre médiocrité, notre manque d'amour, de générosité. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Amen. Le christianisme est peut-être une religion d'insatisfaits, ce n'est pas une religion de personnes qui s'abîmeraient dans la culpabilité. Bien au contraire. Et des paroles comme celles que nous trouvons dans cette lettre de Jean nous rappellent que lorsque notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Nous pourrions dire également, lorsque notre intelligence nous fait dérailler, Dieu est plus grand que notre intelligence. Et avec l'apôtre Paul, nous pouvons dire également qu'elle est certainement digne de confiance, cette parole, et qu'elle mérite d'être accueillie pleinement par tous. Christ Jésus est venu dans le monde pour accueillir tous les pécheurs, dont je suis le premier. Thank you. Et nous pouvons exprimer ce qui nous lie à l'Éternel en ces termes. Nous croyons en Dieu qui a créé le monde pour que nous le cultivions et que nous en célébrions la bonté et la beauté. Il est la source de la vie. Nous croyons en Dieu qui a remis son pouvoir en Jésus, le serviteur, qui a prêché pour le pardon et la liberté de tous les hommes. Il ressuscite la dignité de notre vie. Nous croyons en Dieu qui, par son Esprit, nous unit à son Fils pour que nous combattions le mal et que nous construisions une juste paix dans l'espérance du royaume. Il est le sens de notre vie. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre, et d'éternité en éternité. Amen. J'ai retenu pour notre méditation ce matin, dans le livre du prophète Ésaïe, quelques versets du chapitre 28, les versets 23 à 29 qui seront une douce transition pour ceux qui viennent de la campagne et rejoignent la capitale de l'univers. Chapitre 28 du livre d'Ésaïe. Voici ce que nous transmet le prophète. Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nette et sème du cumin? Qu'il met l'épeautre par rangée? L'orge à une place marquée et l'épeautre sur les bords? Son Dieu corrige pour le jugement, il instruit. On ne foule pas la nette avec le bâton, ou plutôt on bat la nette avec le bâton, le cumin avec la verge, on ne foule pas la nigelle avec le traîneau, et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Et cela vient aussi de l'Éternel Tsebaoth. Admirable est son conseil, et grande est sa sagesse. Avant d'entreprendre une méditation de ce texte agraire, je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières, au cantique 178. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Écouter, c'est être à l'affût du cri du cœur et de celui de l'âme, là où tu nous parles, Éternel notre Dieu. Écouter, c'est être un veilleur attendant que surgisse au détour d'une page, d'une ligne, d'un mot des Écritures ou aux jointures de l'âme, l'indicible, l'ineffable. Écouter, c'est entendre en laissant résonner en nous ce qui jamais ne peut être saisi, ce qui toujours nous échappe, ta parole. Cette parole que nous voulons entendre à travers ces Écritures que nous avons lues. Frères et sœurs, voici donc un texte biblique pour le moins exotique qui nous emmène loin de notre condition citadine sur les vallons normands, dans les plaines de la Beauce, sur ces failles arides des Cévennes pour découvrir ce qu'est le métier d'agriculteur, nous qui n'avons que stylo et clavier d'ordinateur aux mains. La promenade agraire que nous propose le prophète Ésaïe préfigure ces paraboles que nous découvrirons dans les évangiles, ces histoires que Jésus raconte à l'auditoire rassemblé autour de lui pour lui faire miroiter les lumières du royaume des cieux. J'ai retenu cette parabole parce qu'elle me semble plus complète, mais aussi plus précise, et j'oserais presque dire plus intéressante que bien des paraboles que l'on trouve dans les évangiles, celle du semeur, celle de la graine de moutarde. En tous les cas, elle nous présente un aspect du royaume, un aspect de Dieu assez singulier. Et cela en décrivant le travail de l'agriculteur. Et en ce sens, nous pourrions dire qu'Ésaïe développe ici une théologie du champ qui nous permet de penser l'acte théologique, ce sera mon premier point, et nous offre un enseignement propre à exprimer une vérité sur Dieu, ce sera mon second point. Donc, pour ceux qui sont familiers des textes bibliques, une parabole telle celle-ci n'est pas très déstabilisante. Avec Jésus, pour ne prendre que ces deux exemples, nous sommes habitués à ces contes qui stimulent l'intelligence, qui ouvrent les yeux et nous font découvrir une réalité du monde à laquelle nous n'étions pas forcément sensibles jusque-là. Mais plus que cela, ce que je retiens avec ces paraboles, c'est que les textes bibliques nous disent à quel point La théologie est une activité à la portée de tous. Certes, nous ne sommes pas, en tous les cas, moi je ne le suis pas du tout, expert en agriculture. Et je pense ne pas avoir été le seul à apprendre qu'il fallait battre l'aneth avec le bâton, mais que le cumin devait être battu avec la verge. Je n'ai pas été le seul à apprendre que l'épeautre devait être mis sur les bords. Alors vous me direz, voilà des détails bien insignifiants. Mais ce n'est là qu'une métaphore. Nous pouvons transposer cette image développée par le prophète à bien d'autres aspects de la vie. Ce qui me semble intéressant, c'est que pour le lecteur contemporain d'Ésaïe, ce qui est écrit là n'avait rien d'une révélation. C'était connu, pratiqué. Cela participait de la vie quotidienne. Cela faisait partie d'un savoir commun. Je retiens donc qu'Ésaïe se réfère à une expérience commune à laquelle tout un chacun a accès. Alors pour l'heure, vous n'avez peut-être pas encore bien conscience que le prophète Ésaïe fait vraiment de la théologie et nous rend accessible un enseignement profond sur Dieu. Mais vous pouvez accepter qu'Ésaïe rejoint son lecteur dans l'univers culturel qui est le sien. En me hasardant à faire une transposition, puisque je vous disais que nous pouvons transposer, actualiser, je suppose que s'il s'était adressé à nous aujourd'hui en ce lieu, le prophète Ésaïe aurait parlé du transport en Île-de-France. Ce n'est qu'un exemple. Mais c'est un sujet, un thème pour lequel nous avons une connaissance commune. Autrement dit, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'Ésaïe fait de la théologie à partir de la vie quotidienne. Nous pourrions même dire qu'il enracine sa théologie dans la vie courante. Il ne parle pas de Dieu à partir d'une révélation personnelle, ni à partir des déductions qu'il peut tirer de l'étude d'un texte qui deviendra plus tard biblique. Son discours s'enracine dans la pratique. Et c'est de la pratique qu'il va développer une théorie. Ésaïe est donc avant toute chose un observateur de son temps. Et cela peut être vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous en mesure d'ouvrir les yeux sur notre environnement. Mais le fait est que nous le faisons rarement. Au fil des discussions que j'ai avec les uns les autres, ou lorsque je m'interroge sur ma manière de forger mes propres convictions, je constate que nous sous-traitons largement notre pensée. Comment faisons-nous pour avoir quelques convictions en général? Eh bien, nous mixons des analyses réalisées par d'autres que nous accrémentons de commentaires piochés ici ou là. Et au fond, ce que nous faisons, c'est de recycler les idées qui circulent en sélectionnant celles qui nous plaisent, en sélectionnant ce qui nous semble probable ou crédible. Mais il est rare que nous utilisions nos propres observations. Il est rare que nous mettions véritablement à profit nos propres expertises. Alors cela, évidemment, est compréhensible lorsqu'il s'agit de penser ce à quoi nous n'avons pas accès directement. Par exemple, pour nous forger une conviction sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire au sujet de la Syrie. Cela est vrai lorsque nous n'avons pas des données de première main. Nous sommes dans ce cas bien obligés de faire appel à des sources de seconde main, à des sources indirectes avec lesquelles il faudra exercer notre esprit critique pour distinguer le faux du véridique. Mais pour penser notre vie, pour penser les questions qui nous touchent d'une manière ou d'une autre, pourquoi se réfugier derrière les analyses d'autrui, alors qu'il nous est possible de penser par nous-mêmes en premier lieu? En affirmant que nous sommes tous théologiens, le professeur Raphaël Picon donnait raison au prophète Ésaïe, qui, en développant cette théologie du champ, atteste que nul n'est empêché de produire par lui-même un discours théologique au prétexte qu'il ne serait pas diplômé en théologie. En prenant le cas du physicien Newton, alors vous me direz, je ne prends pas le premier venu, soit. Mais ce qui est intéressant avec Newton, c'est de se rappeler que ses travaux ne relevaient pas de la physique, mais de ce qu'on appelait autrefois la philosophie naturelle. Newton tirait des enseignements à partir de ses observations, de ses calculs aussi, et finalement, s'il a innové, s'il a permis de faire avancer notre connaissance du monde, c'est bien parce qu'il ne s'est pas contenté de recycler les idées de son temps, c'est bien parce qu'il a frayé son propre chemin à partir de son expertise, et je ne parle pas simplement d'une pomme qui lui serait tombée sur la tête, ouvrant des voies qui permettraient bien d'autres par la suite. Alors, quelle est la voie que le prophète Ésaïe ouvre en observant les travaux des champs ? Quelle observation fait-il qui permette de développer une théologie ? Tout d'abord, Ésaïe s'efforce de repérer là où Dieu intervient, dans le domaine de l'agriculture. Qui songerait aujourd'hui à se demander où Dieu intervient dans le domaine de l'agriculture ? Pour Ésaïe, Dieu n'est pas un paysan. Ce n'est pas lui qui laboure. Ce n'est pas lui qui sème. Ce n'est pas lui qui tasse, ni qui pousse la roue. Selon Ésaïe, Dieu est à l'origine de la science de l'agriculteur. Je cite, « Son Dieu le corrige dans le jugement, pour le jugement, il l'instruit. » Et puis à la fin du passage, nous lisons également au sujet de Dieu, « Admirable est son conseil et grande sa sagesse. » Ici, Dieu est réputé être l'origine du savoir de l'agriculteur, agriculteur qui va adapter son geste à ce qu'il cultive. Dieu est repéré à l'origine du geste adapté, du geste juste, du geste qui permet à l'homme de faire croître son activité. Dieu est repéré à l'origine de l'harmonie qui règne dans le champ cultivé. Est-ce à dire que Dieu a expliqué par le détail à l'agriculteur ce qu'il devait faire pour obtenir une bonne récolte, de la même manière qu'il dirait au cuisinier ce qu'il doit faire pour préparer un bon repas? Cela, c'est en général l'idée traditionnelle que nous nous faisons de l'intervention de Dieu dans notre histoire. Dieu nous dirait ce qu'il faut faire pour que ça marche, je dirais, inéluctablement. Mais Ésaïe dit autre chose. Son Dieu corrige pour le jugement. Il l'instruit. C'est le verset 26. Autrement dit, Dieu n'est pas celui qui délivre la vérité qui doit être appliquée à la lettre. Ésaïe appelle Dieu cette capacité qu'a l'homme de corriger ses erreurs, de progresser dans une meilleure connaissance de son activité et d'atteindre une harmonie telle avec son environnement que la vie peut se développer et multiplier. Ésaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à ne pas se contenter d'un résultat médiocre, cette capacité à ne pas considérer comme fatal un manque de succès dans son entreprise. Ésaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à porter plus loin ses espoirs parce que son regard ne s'arrête pas à sa première appréciation, mais qu'il intègre aussi, par exemple, peut-être, une parole à laquelle il fait confiance et qui lui dit autre chose que ce qu'il constate comme immédiatement possible. Ésaïe appelle Dieu cette longue succession d'expérimentations, d'essais, de corrections, d'ajustements, d'adaptations qui ont permis aux cultivateurs de son époque d'être affûtés. Ce qui est vrai pour l'agriculture est vrai aussi pour tous les autres aspects de notre existence, a priori, qu'il s'agisse de la navigation, de la construction, de la justice, de l'amour, de l'éducation. Je ne dis pas que pour Ésaïe, Dieu serait une flèche du temps qui nous conduirait inexorablement par le chemin du progrès. Ésaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à adapter ses réponses aux questions qui se posent à lui. Contre le « on a toujours fait comme ça », Ésaïe propose une théologie du champ qui formule, ce n'est pas une citation au sens strict du terme, « nous sommes capables d'ajuster nos propos, nos actes, aux situations auxquelles nous sommes affrontés ». Ceci a une conséquence que je formule en ces termes. Il y a une pluralité de modes opératoires divins. Revenons au texte. En nous présentant les différentes manières de cultiver les différentes plantations et en reliant cela au divin, Ésaïe souligne la diversité des manières de faire. Quelqu'un comme moi, qui n'est pas tout à fait le dernier des imbéciles, aurait tendance à traiter de la même manière l'aneth, le cumin, l'épeautre, l'orge, le blé, l'avoine, le lin, les radis. Je le prends, je le mets dans la terre, j'arrose, j'attends que ça pousse. Il paraît que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il faut adapter notre mode opératoire à la situation précise à laquelle nous avons affaire. Le bon paysan, lui, sait qu'il ne faut pas agir de la même manière avec chaque semence. Mais sait-il, lui, qu'il vaut mieux adapter aussi sa pédagogie en fonction des enfants auxquels nous sommes affrontés ou dont nous avons la responsabilité? Pour Ésaïe, Dieu ne désigne pas une mécanique aveugle qui agirait systématiquement de la même manière en tout temps et en tout lieu. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours, dit Ésaïe. On peut raisonnablement vouloir une baisse d'impôts, mais on ne peut pas demander que les impôts baissent en permanence. Ne serait-ce que parce que, au moment où les impôts sont nuls, on ne peut pas continuer à demander une baisse d'impôts. De même qu'on ne peut pas toujours demander une baisse des taux directeurs. Ça, l'actualité nous le montre. Ésaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à apporter des réponses adaptées à chaque situation. Autrement dit, Ésaïe pose les bases d'une éthique qui ne serait pas une éthique de principe, c'est-à-dire avoir toujours le même comportement en tout temps, en tout lieu, avec quiconque, mais une éthique de responsabilité où nous adaptons notre comportement à la situation à laquelle nous sommes affrontés en fonction de ce que nous comprenons comme étant la réponse idoine. D'un point de vue théologique, si nous pensons à la question de la réforme de la justice actuellement. Eh bien, à la suite d'Ésaïe, nous pourrions dire que la justice, dans tous les cas, ne peut pas être aveugle, mais qu'elle doit tenir compte des individus, des personnalités. Dans un registre un peu plus léger, nous qui voulons que le PSG soit à nouveau champion de France cette année et que le bouclier de Brennus soit disputé entre le Racing Club de France et le Stade français, eh bien, il faudra que toutes ces équipes tiennent compte de leurs adversaires pour développer le bon schéma tactique qui pourra donc changer d'un match à l'autre. Une équipe qui aurait toujours le même schéma tactique serait une équipe vouée à perdre. Car évidemment, n'importe quelle équipe s'adaptant à ce schéma tactique immuable aurait au fait de le contrecarrer. J'ai évoqué la situation en Syrie. Nous pouvons considérer qu'il est normal que la politique étrangère d'un pays soit circonstanciée, qu'elle ne soit pas toujours une réplique automatique. Sinon, cela fait longtemps qu'il aurait fallu attaquer la majorité des pays de la planète, et nous avec d'ailleurs. Cette théologie du champ est donc peut-être un peu plus sérieuse que ce qu'il paraît au premier abord. Cette théologie du champ est une théologie qui ne sort pas des livres, qui ne sort pas des institutions. C'est une théologie instruite par notre expertise, par notre analyse. C'est une théologie dans laquelle nous avons injecté notre savoir, nos observations. C'est donc une théologie enrichie de notre expérience. C'est une théologie qui vaut bien plus qu'une théologie qui serait purement spéculative, une spéculation étant, dans ce cas, la projection d'une idée qui nous semble juste, mais qui n'est pas informée par le réel. C'est une théologie de la pluralité, parce que c'est une théologie qui ne se contente pas de ma propre expérience, mais qui s'intéresse aussi à d'autres expertises, qui s'intéresse aussi à l'expérience de l'autre. Et c'est en ce sens que cela devient une véritable théologie. La théologie où le divin, ce n'est pas ce que je pense, ce que j'observe, porté à l'absolu. C'est ce dialogue, cette confrontation avec la pensée de l'autre, et c'est dans cette élaboration que quelque chose peut devenir théologique, plus universel que ce que j'ai juste en tête. C'est donc une théologie qui rompt avec le régime de la pensée unique et du prêt-à-penser. C'est une théologie où l'homme, même sans titre de noblesse, peut être un jeune pasteur inconnu dans une bourgade obscure de l'Alabama, accepte de se laisser saisir par une question et d'y réagir non pas avec les seules réponses d'autrefois, ce qui inévitablement maintiendrait un statu quo, mais avec cette capacité d'innovation, avec cette liberté d'action, avec cette capacité d'adaptation qu'en protestantisme, nous appelons l'éternel. Amen. Frères et sœurs, le cantique 354 sera l'occasion de chanter une dynamique de la résurrection. Cette idée selon laquelle notre horizon ne s'arrête pas à l'état des choses là, mais qu'il y a possibilité d'aller au-delà de ce que nos sens nous offrent à voir, à sentir et ressentir. Cantique 354, nous chanterons les trois premières strophes. Prenons place. Tout d'abord, quelques informations dans les familles. Vous annoncez deux décès, celui de Fatima Traoré, que certains parmi vous connaissez. Elle était dans cette paroisse il y a quelques années. Elle est décédée à Abidjan il y a quelques jours. Vous annoncez également le décès de Georges Elf, et vous annoncez que ses obsèques auront lieu demain, ici même, à 17h30. Les activités paroissiales vont reprendre tout doucement pour ne pas brusquer les êtres. L'essentiel à retenir, c'est que dimanche prochain, c'est la rentrée catéchétique. Nous allons faire une rentrée échelonnée, pour mieux être prudent. Dimanche prochain, la rentrée catéchétique consiste dans le fait que tous les jeunes sont les bienvenus pour rejoindre les différents groupes d'activités qui ont lieu une fois par mois. L'éveil à la foi concerne les enfants qui ont, disons, entre 3 et 6 ans. L'école biblique concerne les enfants qui ont donc jusqu'à 10 ans inclus. Et le catéchisme concerne les enfants qui sont au collège. Suit le groupe des lycéens qui, comme son nom l'indique, concerne ceux qui sont entre le collège et les études supérieures. Le catéchisme, enfin l'ensemble de l'instruction religieuse, se déroule une fois par mois, un dimanche par mois. Le rendez-vous est à 10h30, en face aux 4 rues de l'Oratoire pour les plus jeunes, ceux qui sont à l'éveil à la foi, et ici même pour tous les autres. C'est une rencontre qui a lieu pendant le temps du culte pour les enfants qui sont allés veiller la foi et qui a lieu jusqu'à 16h, donc pique-nique inclus, pour les enfants qui sont à l'école biblique, qui sont au catéchisme ou qui sont au groupe des lycéens. Le calendrier des rencontres se trouve dans la Feuille Rose, le journal paroissial que vous trouverez à la sortie de ce temple. Donc, si vous êtes parents, si vous êtes grands-parents, si vous connaissez des enfants qui sont un peu désœuvrés, dès dimanche prochain, ils sont les bienvenus ici. Si vous pouvez en plus envoyer un petit email ou passer un petit coup de fil au secrétariat pour confirmer leur présence, ce sera encore mieux pour notre organisation. En sortant, vous passerez bien sûr par le stand librairie pour acheter ce livre qui vient de sortir, « Temple réformé, Église luthérienne ». C'est l'ouvrage qu'il faut avoir pour découvrir l'ensemble des temples de l'Église protestante unie à Paris. Trois intérêts. D'abord, l'intérêt culturel. Les temples sont toujours fermés. Eh bien là, vous pourrez les visiter. Deuxième intérêt, c'est que vous avez ici la première monographie sur l'ensemble des temples de l'Église protestante unie, pour deux raisons. D'abord, parce que ça n'avait jamais été fait. Deuxièmement, parce que l'Église protestante unie n'a que quelques mois, donc forcément, c'est inédit. Troisième intérêt, c'est que vous pourrez, comme cela, profiter d'un ouvrage rédigé par des paroissiennes de l'oratoire. Hélène Guicharneau, je la récupère un peu, elle n'est pas tout à fait de l'oratoire, mais elle chante au cœur de l'oratoire, et Christiane Guttinger, servie par Isabelle Guy, qui s'est occupée de l'aspect iconographique. Donc ce livre a deux intérêts, soit d'ouvrir les temples, soit d'orner votre table de salon. En plus, il est beau. Quadrichromie intégrale. Ai-je bien fait l'article? Ça va? Ça suffit? 22€ en plus. Bon, j'arrête là. Comme vous êtes au stand librairie, que vous achetez en carte bleue parce que vous avez déjà donné tout votre argent à l'offrande qui va bientôt arriver, si vous avez estimé que vous n'aviez pas suffisamment de liquide ou de chèque sur vous pour soutenir la vie de notre Église, vous pouvez bien entendu utiliser le terminal de paiement électronique pour utiliser votre carte bleue et faire un don extravagant. Votre trésorière qui est à l'accueil sera ravie. Voilà. Dernier mot avant que nous passions à l'offrande. Plus peut-être pour nos plus jeunes. C'est une sorte de regret que je vais leur projeter. La théologie du chant d'Ésaïe peut se transférer sur l'école. Je trouve qu'il y a un moment assez fabuleux. C'est la rentrée scolaire. Nouvelle classe, nouveaux étudiants, enfin nouveaux élèves, des gens qu'on ne connaît pas. Et ce que je trouve assez fascinant, j'utilise le terme à dessein, c'est de prendre le temps d'observer comment se tissent les nouvelles relations. Comment on devient copain de quelqu'un. Je dis regret parce que, a posteriori, je me suis toujours rendu compte que je n'avais jamais bien pris le temps d'observer comment les liens se tissaient. Eh bien, vous êtes aux premières loges. Mardi, c'est la rentrée. Observez comment se tissent des liens de camaraderie ou comment ne se tissent pas des liens. Il y a là, en fait, quelque chose qui peut être profondément théologique pour essayer de comprendre ce qui se tisse et si par hasard, c'est pas tout à fait le hasard, il n'y aurait pas autre chose que ce que nous injectons dans la relation qui intervient. En tous les cas, profitez de ce temps de la rentrée des classes pour observer comment s'établissent les nouvelles relations au sein des classes. Ce qui est vrai pour les plus jeunes est vrai pour les plus grands. Il y a des nouveaux paroissiens ici, des anciens paroissiens. Il est intéressant de voir comment l'accueil se fait, comment les relations se tissent. Cela nous apprend beaucoup sur nous-mêmes, en fait. Bien. L'offrande est aussi un lieu où nous apprenons beaucoup sur nous-mêmes. Donc, si vous êtes des gens généreux, tirez-en les conséquences qui s'imposent. Bonne offrande à tous. nous nous unissons dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te demandons des hommes qui aient un esprit de sagesse, forgé par ta fréquentation. Des hommes qui aient une parole qui libère et qui renouvelle. Des hommes qui apprennent à laisser derrière eux ce qui est dépassé. Des hommes qui apprennent à s'ouvrir aux choses nouvelles. Ces choses que tu veux toujours commencer avec nous. Au fond, nous te demandons d'être ce genre de personne, capable de ne pas rougir de l'Évangile, capable d'être signe de contradiction lorsque cela est nécessaire, d'être capable de trouver les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. Et nous te prions avec insistance pour que ton peuple ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans des voies qui nous éloignent de Jésus-Christ. Mais aussi que personne ne fasse de la foi en Jésus-Christ un cri de guerre. Oui, nous faisons appel à ton esprit pour que nous soyons animés d'un esprit d'humilité, source d'unité et d'amour. Car tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et c'est avec les chrétiens de toutes les générations, de tous les temps et de tous les lieux, que nous nous approprions, que nous faisons nôtres ces mots que Jésus a enseignés à ses disciples afin qu'ils résonnent aujourd'hui comme jamais autrefois encore. Et nous nous levons pour te dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.